Eh bien, bonjour Gilles Milhaud-Vasséry, bienvenue dans Passionnément Vôtre.
Bonjour Odile.
Un troisième hein?
C'est la troisième fois, effectivement, vous me recevez si gentiment. Merci.
Et bien, on va refaire un petit tour d'horizon avec vous pour savoir. Donc, vous écrivez, bien sûr, depuis peu, mais vous êtes un écrivain à temps complet, c'est ça?
Tout à fait.
Depuis 2012 seulement?
Alors depuis 2012, effectivement, j'ai commencé un petit peu à écrire, en commençant tout simplement avec quelques concours littéraires, quelques essais, et puis après, c'est devenu une véritable passion, et puis maintenant, c'est devenu une profession, voilà. Mais la passion est toujours là, bien sûr.
Alors depuis 2012-2013, vous me disiez 80 titres?
À peu près, oui.
80 oui. Titres en si peu de temps, c'est incroyable quoi. Vous écrivez du matin au soir, toute la nuit.
C'est à peu près ça. Bon, on va quand même un petit peu expliquer la chose. Je travaille effectivement uniquement sur l'écriture et c'est non-stop. C'est-à-dire que c'est du matin au soir, ce sont des journées de 15 heures à peu près. Pas de week-end, pas de vacances. Et en fait, c'est très simple. Quand on a des ambitions, il faut essayer de s'en donner les moyens. Et ça nécessite beaucoup, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sacrifices. Sinon, c'est pas, même pas la peine d'essayer, quoi. Donc, c'est effectivement un temps complet, plus que complet. Je vais presque dire que j'en rêve la nuit, mais ce serait pas loin de la vérité. Et au final, ça permet de sortir effectivement beaucoup de titres. Bien que, il faut encore convaincre les éditeurs derrière de bien vouloir les publier, et c'est encore une autre paire de manches.
Alors vous avez écrit déjà très jeune des poèmes, comme
oui.
On a souvent envie de le faire pour la fête des mères ou la fête des pères, souvent on nous fait écrire, mais vous avez écrit quand même...
Tout à fait, depuis que je suis effectivement très tôt, vers 8-9 ans, j'ai commencé à écrire un petit peu de poésie. Très vite, ça ne me satisfaisait plus. Donc j'ai eu besoin d'écrire des nouvelles, de raconter des histoires sur des cahiers.
Et vous avez été encouragé tout de suite par les enseignants ou...
Par personne.
Par personne.
Non.
Ah bon.
J'ai suivi un cursus littéraire. Donc après, plus tard, ça m'avait effectivement un petit peu servi. Mais au-delà de ça, non, je ne partageais pas du tout mes écrits. C'était pour moi. J'écrivais pour moi, je me faisais plaisir. Je m'épanchais sur la feuille de papier et en me racontant des histoires. Voilà. Donc plus tard, bien entendu, tous ces documents ont disparu avec le temps. Et c'est que bien plus tard, donc vers 2010-2011, que j'ai commencé à me poser la question suite à des bouleversements dans ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà, donc depuis 2012, je me suis réellement lancé et... On va dire que ça marche pas trop mal. Je suis très très loin de mes objectifs encore, bien entendu. Mais on va dire que je suis sur la bonne voie. Voilà.
Et puis vous avez eu la reconnaissance quand même dans le milieu littéraire, puisque vous disiez que vous avez participé à des concours au départ. Et vous avez eu de nombreux prix.
Oui, alors
comment
en fait,
ça s'est passé, votre premier concours par exemple?
C'est tout simple. En fait, j'étais entouré donc des gens qui me connaissaient, qui avaient lu quelques-uns de mes essais, ou que ce soit en poésie, en prose, peu importe. Et on me disait à chaque fois, mais lance-toi, essaye, envoie tout ce que tu écris à des éditeurs. C'est pas que j'avais pas confiance, mais je voulais pas les croire, ou du moins j'avais besoin de me refaire confiance, on va dire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à courir les joutes littéraires avec de nombreux concours qui s'organisent un petit peu partout à travers le pays. Et finalement, c'est vrai que j'en ai remporté un certain nombre. Je me suis bien plus souvent d'ailleurs placé qu'arrivé premier. Mais j'ai compris que j'avais une plume, un style qui intéressait des jurys professionnels, donc des journalistes, des auteurs, des éditeurs, des écrivains plus ou moins connus. Et je me suis dit là, pourquoi pas. Donc l'étape suivante, ça a été écrire et puis courir le monde de l'édition. Voilà.
Alors vous écrivez sur un ordinateur ou avec des... C'est ordinateur maintenant.
Ordinateur, oui,
voilà,
oui, tout à fait.
Les claviers sont... Et le clavier, votre piano.
C'est à peu près ça, en sachant que j'en use à peu près un tous les 6 mois. C'est exactement ça.
Ah oui, d'accord. ils sont détruits après.
Ils rendent l'âme au bout de 6 mois, il n'y a rien à faire.
Ah oui.
Je n'ai pas réussi à en trouver un qui soit suffisamment solide pour résister au rythme que je leur impose. Voilà.
Alors vous écrivez, c'est assez varié, parce que vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit des recueils de poésie, et puis des polars, des thrillers.
Tout à fait.
Et puis des romans. Et là, on parlera bien sûr de votre 12e roman, mais avant c'est de brûler les étapes, vous avez choisi de nous parler des maisons d'édition, puisque
oui.
Vous avez été... Vous avez plusieurs maisons d'édition.
Tout à fait. Compte tenu que j'écris à un rythme relativement soutenu, je me suis tourné vers plusieurs maisons d'édition. Et c'est à chaque fois une histoire de rencontre, en fait. C'est-à-dire que c'est soumettre un manuscrit, c'est une chose. Mais après, c'est évidemment, je dirais, les atomes crochus qui peuvent se créer. Et je reste fidèle à mes maisons d'édition. Donc c'est quelque chose d'important. Là j'ai préparé de quoi vous parler des principales et surtout de mes actualités qui sont, vous allez voir encore une fois, plutôt denses et assez fournies, mais j'y tiens particulièrement et on terminera votre émission avec l'événement puisque comme vous le soulignez, mon 12e roman va arriver le 13 juin et d'une façon assez, assez particulière, donc j'en suis super super content, je jubile, ça me fait vraiment tellement plaisir qu'on terminera par ça à la fin. Mais je tenais aussi à parler de mes autres éditeurs parce que je peux pas me contenter de parler que d'un seul livre alors que j'en ai plusieurs qui sont, on va dire, sous les rampes de lancement.
Parce qu'il y a des éditions numériques maintenant, ça se fait beaucoup.
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, tous les jeunes auteurs passent par la case qu'on appelle numérique. Et ça, il faut le comprendre. En faisant un raccourci rapide, pour une maison d'édition, éditer un livre, c'est une prise de risque à la base. C'est un investissement financier. Je ne vais pas vous expliquer non plus toute la chaîne du livre, la diffusion et ainsi de suite, mais c'est automatiquement un risque. Produire un jeune auteur aujourd'hui, c'est relativement difficile. Donc automatiquement, aujourd'hui, si l'on veut courir les maisons d'édition à fort potentiel, donc les grandes maisons d'édition, aujourd'hui, il faut déjà leur fournir une bibliographie assez complète, prouver qu'on a été édité, mais pas seulement. C'est aussi prouver qu'on a plu, qu'on a un lectorat, qu'on a des fans, des gens qui vous suivent et qui sont prêts à lire ce que vous allez créer. Donc automatiquement, c'est un risque. L'ayant compris pendant ces 3 dernières années, j'ai beaucoup écrit dans le monde numérique. J'écris aussi en papier. Et là maintenant, je suis sur un virage qui m'impose de retourner vers le papier, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour un auteur de se faire connaître, d'atteindre une certaine notoriété. Et j'insiste, je ne parle pas de célébrité, je parle de notoriété. Si l'on veut vivre de sa plume, il faut être un peu connu, il faut avoir franchi plusieurs étapes, et on n'a pas le choix. C'est comme ça, donc ça passera par la case papier. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai essentiellement écrit sur le numérique.
Alors, le premier livre que vous avez fait éditer, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez envoyé à beaucoup d'éditeurs, il y a eu beaucoup de refus. Comment ça se passe quand on démarre dans ce domaine-là où c'est quand même... Il faut se bagarrer, il faut se battre pour se faire entendre ou se faire lire.
Tout à fait, c'est très 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 difficile. Si parmi vos auditeurs, il y en a qui ont envie de se lancer, je leur dirais tout simplement patience, 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 patience. Après, à chaque fois que vous allez tomber, il va falloir vous relever. Des portes dans le nez, vous allez en prendre une multitude. On va vous tromper, on va se moquer de vous, on va vous dire n'importe quoi. Et il faudra passer au-delà et se concentrer pour trouver les bonnes maisons d'édition. Les gens sérieux avec qui on peut travailler et qui sont à l'écoute de leur auteur et qui, on est dans la même barque. Et ces éditeurs-là, je dirais que c'est méchant ce que je vais dire, c'est pas forcément la majorité dans le sens où aujourd'hui le monde de l'édition voit sortir de droite et de gauche beaucoup de maisons, à la même vitesse d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'auteurs arriver sur le marché. Et forcément, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du vraiment pas bon du tout. Et ça, c'est pareil, que ce soit pour une maison d'édition ou pour un auteur.
Est-ce qu'on vous répond toujours ?
Oui.
Oui.
Oui, alors parfois c'est même assez risible avec des erreurs. On répond aussi, je dirais, de travers, dans le sens où vous avez des maisons d'édition qui ne sont pas des maisons d'édition, qui ne vous proposent pas de contrat d'édition, mais un contrat commercial. On vous déguise de l'auto-édition. Il faut être très 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 vigilant. Donc le vrai monde de l'édition, c'est l'édition à compte d'éditeur, j'insiste, ce qui implique que l'auteur ne verse rien à son éditeur. C'est l'éditeur qui prend le risque financier, et en remerciement, l'auteur ne touchera, ne percevra que des droits d'auteur. C'est comme ça que ça fonctionne dans le vrai monde de l'édition.
Est-ce que quand on est découragé, parce que vous avez eu donc pas mal de
oui.
refus, plusieurs refus,
bien sûr.
Est-ce que vous avez tout de suite réussi à faire la part des choses ? Est-ce qu'il y a des critiques qui accompagnent les refus toujours ? Ou est-ce qu'on est cassé ? Est-ce qu'il faut dire non ? Vous avez eu quelqu'un qui vous a soutenu ? Quel a été votre garde-fou ?
Personne. Mon garde-fou, je le remercie si elle écoute, c'était Nathalie qui m'a mis des coups de pied au derrière quand il le fallait, parce que j'ai eu des moments où effectivement où j'ai cru que j'allais tout laisser tomber. Les refus sont rarement justifiés par les maisons d'édition, et c'est normal. Les grandes maisons reçoivent quelques milliers de projets à l'année, donc ils n'ont pas le temps. Mais au-delà de ça, c'est du temps, c'est de la réflexion, c'est savoir faire un grand pas en arrière, garder la tête froide, surtout, ne pas s'emballer au premier oui, aussi. Donc c'est tout un apprentissage, c'est un métier. Je veux dire par là, c'est qu'on pense qu'écrire, on envoie un projet, on signe un contrat et c'est terminé. Non, c'est là que ça commence, et c'est là que ça commence pour de bon, puisqu'on a tout un travail d'editing qui va être fait, et ça, faut l'accepter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre éditeur va vous dire le chapitre 23, tu me le refais complètement de A à Z parce que ça colle pas. Ton épilogue, on s'en fout, tu le vires. Enfin, j'exagère un petit peu.
Oui, il faut accepter aussi d'être...
Faut écouter ceux qui savent.
Ouais.
Mmh. Voilà, eux, ils savent vendre, ils connaissent leur métier, ils savent ce qui va passer ou ce qui ne va pas passer. Ils ont aussi une ligne éditoriale à respecter. Donc, c'est le métier d'auteur, c'est déjà en premier lieu, c'est savoir écouter, avoir la tête froide. Et puis, même quand c'est signé, comprendre que c'est là que le vrai travail va commencer, avec les reprises, les corrections. Et c'est beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce que je vous dis la vérité.
Oui.
Au début, j'ai envoyé des manuscrits chez Robert Laffont, chez Plomb, chez Le Seuil. Mais j'y croyais vraiment. Et bien entendu, tout m'est revenu avec une réponse négative. Mais là, sur le moment, on ne comprend pas. On ne comprend pas et on pense qu'on a la meilleure plume du monde, qu'il n'y a personne d'autre qui existe. Votre manuscrit, c'est le futur best-seller qui va se vendre à 2 millions d'exemplaires. Et là, on redescend sur Terre. On se crache lamentablement et après, il faut réfléchir et rebondir. Donc, on commence par faire petit. On commence par voir des petites maisons d'édition. On apprend. On apprend tous les jours, sans arrêt, on se remet en question. Et après, au-delà de ça, petit à petit, on commence à prendre un peu de confiance, mais surtout de la maîtrise au niveau du métier. Puis ça se fait avec le temps. Voilà.
Est-ce qu'on n'a pas, de temps en temps, l'envie de s'éditer soi-même, puisque ça s'est vu, il y a des gens qui deviennent leur propre éditeur, qui se fondent leur maison d'édition, à défaut
Tout
d'être
à fait.
Publié et d'être un petit peu transformé. Parce que ça aussi, il faut l'accepter, qu'on vous change le titre ou qu'on vous dise de modifier certaines choses.
Alors, l'auto-édition, moi personnellement, j'ai rien contre. J'en connais plusieurs qui sont auto-édités. J'ai beaucoup d'admiration parce que pour ma part, j'en serais parfaitement incapable. Être auto-édité, cela implique déjà d'avoir un statut social et fiscal de société, parce qu'on ne peut pas déposer ses bouquins chez un libraire en étant auto-édité sans pouvoir facturer, et ça, c'est du droit social de base. Donc, il faut avoir toute une contingence, je dirais, de personnes morales à la base. Il faut savoir écrire. Après, il faut comprendre que la diffusion, c'est vous qui allez l'assumer tout seul comme un grand. Donc c'est vous qui allez démarcher les grandes plateformes, qui allez démarcher les libraires, qui allez... Donc c'est un réel travail différent de l'auteur de base comme je peux l'être. avec bien entendu des gains qui seront certainement plus conséquents. Mais pour ma part, je préfère me réfugier, j'allais dire, dans une écurie d'une maison d'édition où je me sentirai à l'aise, où je sais que mes écrits seront diffusés, où j'aurai un appui au niveau de la publicité, au niveau de tout un tas de choses, plutôt que de me lancer tout seul dans l'aventure. Voilà. C'est un choix, en fait.
C'est un choix, puis c'est un vrai métier aussi.
Tout à fait.
Et on ne peut pas tout faire. Déjà, vous êtes, je dirais, assez doué en ce qui concerne la communication. Vous avez un Facebook, vous êtes très actif. Vous avez un site qui est bien fait aussi. Mm-hmm. Et on ne peut pas passer à côté de Gilles Milo-Vasseri sans se demander mais qui est cet homme qui écrit autant.
Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai compris aussi une grande règle du monde de l'édition, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Remplacer le ciel par maison d'édition, bien entendu. C'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que le contrat est signé, il ne faut surtout pas croire que ça va s'arrêter là. Ce n'est pas possible. Vous devez appuyer votre propre promotion. Vous devez répondre aux invitations de l'éditeur qui lui-même va vous créer des réunions, des réunions dédicaces, des rencontres avec les lecteurs, des invitations au salon. Donc, tout ce cursus-là passe aussi et obligatoirement par une communication personnelle sur ses propres titres. Moi, j'ai essayé de coller un petit peu à cette réalité-là avec mes petits moyens. Donc derrière, avec un blog officiel, les réseaux sociaux qu'il faut animer régulièrement. Et ça permet de se faire connaître et ça permet de propager, de toucher des gens différents aussi qu'on n'aurait peut-être pas touché si on était resté assis sur sa chaise avec sa pile de livres dans les bras. Donc c'est non seulement un besoin, mais je dirais aussi une nécessité par rapport justement à la diffusion numérique des livres. Les éditeurs font bien attention à ça aussi. Et aujourd'hui, mis à part s'appeler Lévy ou Musso, tous les auteurs sont dans la même barque. On communique tous sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur des sites internet. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour ma part, je sais que ça m'aide beaucoup.
Alors Gilles Milo-Vasseri, on va voir ces premières maisons d'édition qui vous ont édité. Ce qu'ils ont édité de vous et comment ça s'est passé et ce que vous avez envie d'en dire.
Voilà, donc j'ai préparé un petit peu quelques documents. Donc aujourd'hui, ça va être pour parler beaucoup d'une actualité. On y arrivera en fin d'émission. J'aurais voulu vous parler de deux maisons d'édition avec qui je travaille le plus régulièrement. Et on va commencer par VFB Édition, avec qui j'ai sorti plusieurs romans, justement, en numérique. Et qui ont été des romans importants, qui fonctionnent bien. J'en suis très content. Donc c'est une petite maison d'édition qui ne travaille qu'en numérique. Et voilà, le dernier titre en date, c'était Double Jeu Mortel, qui est sorti en mars 2015. C'est un thriller, c'est un roman thriller, espionnage, et je dirais aussi un petit peu politique. Puisque...
Mais il est tout frais celui-là, mars 2015.
Celui-là est tout frais, mars 2015, donc ça a été... ouais, je suis très très content, et puis bon, voilà, c'est un titre qui a bien fonctionné, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Avec cette société d'édition, j'ai sorti plusieurs titres au cours de l'année dernière, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans votre émission, donc Double Jeu Mortel. J'ai sorti IEM, qui était un document fiction et qui se base sur des faits réels par rapport à la Terre Rouge, ce qui s'est passé en Éthiopie dans les années 77, et Les Larmes de Satan. Les Larmes de Satan, qui est un peu mon livre fétiche chez cet éditeur, puisque c'est un gros pavé. C'est un livre qui a d'ailleurs, l'éditeur l'a choisi en texte intégral et l'a sorti aussi en deux tomes. C'est l'histoire tout simplement de la Seconde Guerre mondiale que j'ai voulu prendre et travailler par les yeux d'un jeune homme qui connaît bien des déboires au début de sa vie et qui peu à peu va rentrer, je dirais quasi involontairement, dans la résistance et qui va vivre des périodes difficiles, comme c'était ces heures sombres de notre histoire. Mais dans ces périodes difficiles, il va progresser, il va avancer, il va chercher sa rédemption, ni plus ni moins. Donc c'est un voyage qui va l'emmener de Guyane, puisqu'il va commencer au bagne pour un crime qu'il n'a pas commis. Et il se retrouve engagé, revenant au moment de Dunkerque en France, entrant dans la résistance, et c'est un voyage qui va l'emmener jusqu'à Auschwitz-Birkenau. Donc c'est un bouquin, même moi, ça peut faire sourire, mais même moi je suis bouleversé quand j'en parle. Et j'ai reçu entre autres plusieurs témoignages par email de lecteurs qui m'ont dit des trucs très très sympas. Et c'est vraiment ça fait vraiment très plaisir. Donc des enfants, c'est bien souvent des enfants de résistants qui se rappellent plus ou moins bien de la guerre, qui l'ont pas forcément subi, mais qui l'ont vu à travers les récits qu'ont fait leurs parents de cette période. Et j'ai reçu vraiment des témoignages qui m'ont bouleversé, quoi, franchement. Donc je suis content de l'avoir écrit, celui-ci. C'est vraiment le livre fétiche chez cet éditeur.
Les larmes de Satan.
Les larmes de Satan. D'ailleurs, si vos auditeurs veulent se renseigner, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est aller sur mon blog. Et ils trouveront absolument toute ma production avec tous les liens possibles et imaginables.
Donc le blog, il suffit de taper Gilles Milo-Vasseri.
Vous tapez ça sur Google et vous allez trouver, il y a tout ce qu'il faut.
Donc ça, c'est trois livres que vous avez fait publier en version numérique.
Oui.
Avec VFB Édition. Mm-hmm. Il y a d'autres romans publiés avec eux.
Chez VFB, oui, il y a eu Stan. Stan qui est l'histoire d'un tueur nature sanguinaire et qu'on découvre au fur et à mesure comme... Ben, on sympathise très très vite. J'ai eu beaucoup de critiques en fait. Donc le but de ce livre, c'est une traque faite par un policier qui court en fait après un tueur en série qu'il a déjà arrêté, donc mis en prison. Et on découvre au fur et à mesure pourquoi Stan s'est évadé, pourquoi le policier le prend de plus en plus en sympathie. Et bien souvent dans les chroniques que j'ai eues, on m'a souvent dit que le vrai héros du bouquin, c'était Stan. C'était ce tueur sanguinaire qui a toutes les meilleures raisons du monde d'être sanguinaire.
C'est assez noir ce que vous écrivez.
Ah, ça dépend.
Ça dépend.
voilà, bon, bah, ça c'est du thriller, c'est du polar. Mm-hmm. Et on peut pas faire autrement que d'écrire des histoires sombres si on s'attaque à ce genre. J'arriverai sur l'érotisme plus tard en parlant de d'Arlequin. Donc ça sera la prochaine étape. Mm-hmm. Pour continuer avec VFB, si vous lisez IEM, vous verrez que c'est... Alors déjà, c'est un livre qui a fait l'unanimité un petit peu sur tous les réseaux sociaux, qui a fait, je peux dire, sans forfanterie, il a fait un joli carton. Et c'est un livre qui a été bien apprécié par les lectrices. C'est une histoire vraie, hein. C'est donc l'histoire d'une femme qui fuit la Terre Rouge en Éthiopie, donc qui fuit un régime politique, qui se réfugie dans la République de Djibouti, qui est donc proche. Et pour survivre, elle n'a plus qu'une solution, c'est de se prostituer, avec des rêves plein la tête, et elle va faire une rencontre qui va justement lui permettre de sortir de tout ça et de réaliser peut-être un jour ses rêves. Voilà, et ce qui est terrible, c'est que cette femme, Yem, existe. C'est un personnage de roman, d'une fiction, mais c'est surtout quelqu'un qui existe. Et ce bouquin, voilà, c'est aussi un livre fétiche qui m'est très personnel. Donc c'est une belle découverte. Alors là, on n'est pas non plus dans le système thriller, polar. L'intrigue est différente. On comprend aussi qu'il y a eu une guerre civile dont on a très peu parlé dans les années 70-80 au niveau de l'Éthiopie. Mais au-delà de ça, on a une intrigue et on a surtout le courage d'une femme qui a envie de réaliser ses rêves. Donc là, si vous êtes des auditrices, je les invite à se tourner plus vers ce livre-là. Je pense qu'il les captivera beaucoup plus que Stan ou que Double Jeu Mortel, qui va plus s'orienter sur de l'intrigue, sur de l'aventure, sur autre chose.
Alors, Gilles Milo-Vasseri, vous écrivez beaucoup depuis peu, mais c'est très très dense. Mm-hmm. Est-ce que vous-même vous dévorez des livres en parallèle, ou vous en avez dévoré, ou c'est l'inspiration qui vient du cinéma, des films Qu'est-ce qui vous...
Alors j'ai beaucoup lu, effectivement, depuis très très tôt dans ma vie. J'ai dévoré quelques centaines, quelques milliers de livres. C'est pas un vain mot. Alors c'était de tout, avec une nette préférence pour Saint-Ex, pour Kipling, pour. Mais je pourrais pas tous vous les citer, mais c'est ce qui m'a donné déjà envie à la base d'avoir une vie un petit peu différente. Quand on lit Jules Verne, quand on lit. Si vous lisez Cro-Blanc, si vous lisez. Vous découvrez peut-être un goût pour l'aventure et vous avez envie que d'une seule chose, c'est de suivre un petit peu ce mode de vie. Donc très petit, après avoir lu tout ça, je me suis dit je vais partir, je vais voyager, je vais mener mon aventure. J'ai eu cette chance d'avoir une vie un petit peu différente, un petit peu en marge, je dirais, et c'est ce qui m'a apporté beaucoup, beaucoup d'expérience. Sur différents sujets, sur différents pays ou continents. Et derrière ça, forcément, pour moi, c'est facile. J'ai la tête pleine de souvenirs et de quoi puiser dedans des centaines de synopsis, on va dire.
Vous avez beaucoup voyagé, donc est-ce que c'était dans le cadre d'un travail précédent ?
Alors, c'était dans le cadre d'un travail, c'était dans le cadre de l'armée. Ça a été différents continents, beaucoup en Europe, beaucoup en Asie, beaucoup, surtout et essentiellement en Afrique, au Proche et Moyen-Orient aussi. Donc c'est ce qui a fait que...
Mais à ce moment-là, c'était plus dans votre tête les souvenirs que vous avez mis sur papier plus tard.
Voilà, en fait j'ai toujours écrit, donc c'était déjà quelque chose qui était en moi et... À ce moment-là, je ne pensais pas spécialement à rédiger un roman, un thriller ou quoi que ce soit. J'y étais pas du tout. Non, c'était plutôt le fait de dire je vois autre chose, j'apprends autre chose et je découvre surtout le genre humain. J'ai découvert des cultures, des approches complètement différentes sur bien des sujets. Et après, tout ça, ça rentre dans la tête et ça n'en bouge plus, quoi. C'est des souvenirs qui vont rester à demeure. Et puis un jour... quelques années plus tard, on se dit, tiens, j'écrirais bien quelque chose sur l'Éthiopie. Oui, j'ai eu la chance d'aller en Éthiopie, j'ai eu la chance de faire des missions humanitaires. Donc automatiquement, la fiction va rejoindre la réalité qui sont dans ma tête pour certains livres. Mais je crois que c'est, à la base, c'est quand j'étais gamin, c'est tous ces livres que j'ai lus qui m'ont donné cette envie.
Vous avez des bons retours des lecteurs qui vous lisent. Mmh. Quel moteur pour vous quand vous démarrez une histoire ? C'est un sujet qui vous vient d'un seul coup ? C'est un personnage ? Comment vous créez vos... Est-ce que vous partez sur l'idée « Ah, ça va plaire », l'idée de plaire au lecteur en premier ou un autre moteur
Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, je cherche pas à plaire. J'ai des idées dans la tête, il m'en vient à peu près une dizaine tous les jours, donc j'ai pas ce syndrome de la feuille blanche. Mais c'est, par contre, je vais quand même un petit peu mettre un bémol à tout ça. Il faut pas oublier qu'un auteur doit rester stratégique. Quand je dis stratégique, faut penser au monde de l'édition, parce qu'écrire c'est bien, mais se faire publier c'est quand même meilleur. Aujourd'hui, j'ai appris à diriger un petit peu mes envois de manuscrits. Les maisons avec lesquelles je travaille, je les connais bien. Donc je sais que tel ou tel projet, c'est même pas la peine de le renvoyer. Donc c'est une question de discernement. Et quand je parle de stratégie, c'est par rapport à la maison d'édition, par rapport au fait d'être publié, afin d'éviter les refus. Voilà, la base du travail, c'est ça. Après, tous les auteurs ont un style, tous. Que ce soit en érotisme, en polar, en thriller, quel que soit le domaine littéraire, on a des lecteurs. Et ces lecteurs, une fois qu'ils vous ont apprécié sur un ouvrage, et là, quel qu'il soit, ils vous suivront. Moi, je ne pense pas écrire pour leur plaire, mais je pense à leur dire merci, parce que sans eux, j'existerais pas, tout simplement.
Alors, vous parliez de 80 livres en tout. Est-ce que les 80 ont été publiés ?
Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Je vais être à 78 ou 79 références sur Amazon.
Est-ce que ça vous arrive, quand vous revenez un peu sur ce que vous avez écrit, d'être insatisfait ou d'avoir envie de reprendre un livre et de le retravailler ?
Tout à fait. Alors là, c'est exactement ça, parce qu'en fait, on est dans un système où on est en apprentissage permanent. on progresse. Et si on a la chance d'être entouré par de bons éditeurs qui ont des gens qui savent vous passer un message, qui savent vous expliquer et vous démontrer par A plus B que eux ont raison et pas vous, si vous les écoutez, forcément, vous progressez. Et qui dit progression dit un changement total de vision, un changement de style. Et pas plus tard que ce matin, j'en parlais justement avec une personne qui me chronique régulièrement et qui est en train de lire mon premier roman papier d'ailleurs, et qui me disait que oui, c'était pas du tout pareil par rapport à ce que je peux écrire aujourd'hui, mais que l'empreinte était bien là. Et c'est cette empreinte, je pense, qui est vraiment importante. C'est d'avoir son style, d'avoir une plume particulière, quelle qu'elle soit, quel que soit le genre ou le domaine. Et que vos lecteurs vous puissent vous reconnaître. Et ça, je crois qu'après, on l'a... comment dire, c'est plus de l'inné que de l'acquis. L'acquis, ce sera tout le travail qui va être autour, dans le travail d'editing, dans le travail de correction, de reprise. Et ça, c'est jamais fini. Donc, qui plus est, quand vous allez progresser, vous prenez un texte écrit 2, 3, 4 ans auparavant, vous tombez de votre chaise. Et vous dites, c'est pas possible que j'ai écrit un torchon pareil. Mais c'est la réaction qu'on a tous.
Est-ce que vous avez, quand vous terminez un livre ou quand vous l'écrivez, même en cours de route, vous vous faites relire systématiquement par quelqu'un d'extérieur, évidemment, à l'histoire, de neutre ou un proche?
Alors ça m'arrive quelquefois quand j'ai besoin de... Je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en soi. J'ai comme beaucoup d'auteurs, je pense. Je suis en doute permanent, je me remets en question très régulièrement, donc c'est mon texte, je vais l'écrire, je vais le reprendre et je vais le reprendre et je vais le corriger, le recorriger, et je serai jamais satisfait. Donc parfois sur certains textes, quand j'ai des buts plus précis, quand je sais ou que le manuscrit doit être envoyé à une grande maison, quoi que ce soit, il m'arrive de me faire relire, oui. Oui, oui.
Alors, est-ce qu'on va peut-être faire une pause musicale et puis, ensuite parler de la deuxième maison d'édition, bien sûr. Alors, on va écouter Mélodie Gardot.
Cire, 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 me. See that man sitting in front of the borderline. He ain't got the time to argue what's yours and what is mine. See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. See, all working for the means to the end of our situation. All hoping for the day that the policy abdication run. I said it gonna come out. I said it gonna come. See that man sitting in front of the Jewish style. He can't walk no more. He just too damn poor. See that man holding his eyes from the glaring sun. He ain't got no one. His hopes all been undone. See all working for the means to the end of our situation. All hoping for the day that the power see application run. I said it gonna come down. I said it gonna come down. What you mean when you say lies? you got behind them eyes. 'Cause we all working for the means to the end of our situation. We all hoping for the day that the powers, the application run. I said it gonna come loud. I said it gonna come.
Je retrouve Gilles Milot-Vasséry, écrivain, auteur, dans cette émission passionnément vôtre. Nous en étions donc à cette maison d'édition VFB Édition, une maison d'édition numérique qui a publié déjà donc plusieurs de vos livres.
Oui.
Et il y avait autre chose à rajouter.
Oui, simplement donc cette maison d'édition, c'est que ce sont des gens avec qui je travaille depuis pas mal de temps maintenant, ça fait plus d'un an. Et simplement, il va y avoir un gros changement dans cette maison d'édition qui s'annonce pour la fin de l'année, pour peut-être début de l'année prochaine. Alors, je ne suis pas autorisé à en dire plus, mais tout simplement que c'est quelque chose qui va aller dans le bon sens, bien entendu. Et c'est bien quand on a une maison d'édition sérieuse d'en parler, de faire aussi la promotion, parce que ce sont des sociétés, donc c'est bien d'en parler.
Alors, c'est l'occasion.
Tout à fait, et tout à fait. C'est pour ça que je suis venu, justement, pour parler de ces gens, de ces maisons d'édition avec qui je travaille régulièrement. Et on passe peut-être à la suivante, parce qu'elle est importante pour moi.
Alors, voilà, la deuxième maison d'édition, c'est aussi une maison d'édition numérique ? Non.
Alors, là, on va parler du groupe Arlequin. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Le groupe Arlequin, c'est ce qui m'a permis aller aux trois quarts d'apprendre tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Parce que quand j'ai commencé, j'étais un petit peu à la dérive sur pas mal de choses. Et techniquement, c'est des choses qu'il faut apprendre. Le groupe Arlequin m'a donné ma chance principalement en érotisme. Et je dis bien en érotisme, on ne parle pas de pornographie, on ne parle pas de choses bizarroïdes. On parle bien d'érotisme et je travaille avec eux depuis 2 ans. Là, j'ai une pensée toute particulière pour Karine, qui est directrice du projet, qui m'a franchement découvert à la base, qui m'a donné ma chance. Et j'oublierai jamais quand elle m'a appelé la première fois, me demandant si j'étais un auteur qui acceptait de revoir sa copie. Et je dis bien sûr que oui. Et de là a découlé, une très belle aventure, puisque ça dure depuis 2 ans. Il m'édite très, très, très régulièrement. Alors, je suis édité en numérique. Il faut savoir que le groupe Arlequin, tout le monde connaît Arlequin, fait aussi de l'édition papier, qui sera plus orientée vers la romance, vers des choses qui sont plus pointues dans leur ligne éditoriale. Donc là, ils ont ils fonctionnent différemment. Moi, en ce qui me concerne, je suis très très bien chez eux. J'ai beaucoup appris. ils m'éditent régulièrement et donc tout va bien. Alors j'avais besoin de parler de cette maison d'édition parce que l'actualité, encore une fois, est riche avec cette maison. On va commencer par le programme de juillet. Donc ça va commencer le 3 juillet, si je ne fais pas de bêtises, c'est ça. On a prévu une série érotique qui servira un petit peu de roman feuilleton, entre guillemets, sur le mois de juillet. Donc ça s'appellera Sex Court. C'est l'histoire, les aventures d'une escort girl, mais faut un peu se sortir du cadre bêtement sexe. Il y a des histoires derrière, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments aussi, aussi étrange que ça puisse paraître. Et on va visiter les capitales européennes, on va commencer à Zurich, on va passer par Paris. On va voir Bruxelles, Stockholm, Berlin, Amsterdam, j'en passe les meilleurs. Donc tout au long du mois de juillet, ces nouvelles érotiques seront publiées à raison de 2 ou 3. Non, 3 par vendredi, 3, 10, 17, 24 juillet. Et ce sera franchement une série très très sympa.
Donc on pourra voir ou lire où?
Alors c'est tout simple, sur le site de l'éditeur et toutes les plateformes numériques.
D'accord.
Donc Amazon, Fnac et ainsi de suite, et que vous habitiez en France, en Provence, hein, mais en France, en Belgique ou quoi que ce soit, vous trouverez les liens. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on travaille avec des maisons d'édition sérieuses, la diffusion c'est quand même quelque chose de très 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 important. Une grande maison comme l'est le groupe Harlequin, qui je le rappelle est quand même rattaché au groupe Hachette derrière, a des moyens de diffusion que ne pourra jamais avoir un auteur auto-édité. Vous voyez, c'est ce que, quand je répondais tout à l'heure à votre question, c'est un peu à ça que je pensais. Quand vous avez la chance de signer avec de grandes maisons comme ça, vous êtes diffusé, je ne vais pas dire mondialement, mais on vous trouve réellement, au moins en Europe, on vous trouve partout. Et ça, c'est important.
Alors, dans les nouvelles aussi qui vous font plaisir et qui vous font du bien, vous avez fait un premier salon du livre à Paris l'année dernière.
Oui,
fin mars donc 2014.
Tout à fait.
Et alors, comment ça s'est passé, ce premier salon du livre? Qu'est-ce qui se passe dans un salon du livre?
C'est terrifiant. Alors, c'est terrifiant quand on est comme moi, un petit bonhomme, qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'organisation. Donc, le groupe Harlequin m'avait invité donc, l'année dernière. Ils m'ont réinvité cette année. Et c'est tout simplement prodigieux parce que c'est l'occasion déjà de rencontrer les collègues. On est tous disséminés sur l'Hexagone. Donc on rencontre ses collègues, on rencontre surtout les lecteurs, puisque c'est l'occasion aussi de faire des séances de dédicaces, des interviews, de rencontrer des blogueuses littéraires qui sont beaucoup, beaucoup situées sur Paris. Donc c'est franchement un événement fabuleux. On est vidé, on est sur les rotules quand on en ressort, mais c'est une expérience fabuleuse. Donc j'ai eu cette chance-là, effectivement, d'être l'année dernière et cette année au Salon du Livre de Paris, grâce à Harlequin. Et je les en remercie encore. D'ailleurs, s'ils me prévoient encore dans les tuyaux pour l'année prochaine, ce coup-ci, c'est décidé, je resterai plus longtemps.
Donc là, c'est sur une journée?
Alors ça se passe sur une... J'arrive en général le jeudi soir, inauguration, puis ensuite le vendredi. Je repartais le samedi, et c'est vrai que c'est un rythme très, très, très soutenu. On est épuisé, quoi. Mais donc j'essaie de rester plus longtemps la prochaine fois.
Donc ça, c'était le premier salon du livre, c'était en 2014. En fin 2015, vous êtes à nouveau invité.
Donc 2015, j'ai été invité sur le salon de cette année, donc au mois de fin mars. Et franchement, c'est une expérience très très sympa. C'est vraiment quelque chose, c'est inoubliable. Hein. C'est difficile, c'est long, c'est fatigant, c'est tout ce que vous voulez, mais franchement, c'est quelque chose à faire.
Et comment ça se passe pour vous, là? Vous présentez plusieurs livres, le dernier né,
Alors, on présente plusieurs livres. Cette année, le Harlequin avait fait quelque chose de bien en réunissant ses auteurs phares de la collection HQN. Et il nous a fait la surprise, vu que le thème était le Brésil, on a eu droit à un recueil où nous étions 8 de mémoire. Et on avait tous signé un texte en rapport avec le Brésil. Donc c'était une édition spécifique qui a été faite exclusivement pour le salon. Par contre, les nouvelles vont ressortir en numérique courant de l'été. Donc c'est l'avantage de travailler avec de grandes maisons d'édition où vous pouvez justement, ils investissent sur vous, parce qu'on peut dire ils investissent, hein, on parle bien d'argent, basse-pont d'argent, mais ils investissent, ils vous portent, c'est essentiel pour un auteur.
Est-ce qu'on va venir à ce dernier né?
Eh bien non, pas encore.
Pas
Odile,
encore.
Je vais
qu'est-ce
vous contrarier.
Que j'ai oublié?
Non,
oui,
c'est pas vous. C'est pas vous. C'est moi qui vais passer vite.
Non, non, mais on a
dans
le
les
temps.
Séries, dans les séries toujours nouveautés, actualités. Donc, cher Lequin, je vais parler de cette série Sexcorte qui sortira. Mais c'est pas tout. Comme vous le disiez, je n'arrête pas d'écrire. Donc, ce sera ensuite sur le fin octobre. Il y a une série de 4 longues nouvelles érotiques qui vont sortir sur le thème de l'Orient Express. Ça, c'est un scoop que vous avez eu parce que personne ne le savait. Donc, ces 4 nouvelles seront très sympas, se déroulent à des époques, vous savez, avec ces vieilles locomotives à vapeur, avec tout un charme romantique et un zeste d'érotisme pour pimenter un petit peu le tout. Et pour terminer mon actualité, Harlequin, début décembre, là c'est un roman qui sera historico-érotique, pardonnez-moi pour le néologisme au passage, mais là je vous donne ni titre ni quoi que ce soit, donc je sais qu'il arrive à ce moment-là.
Début décembre.
Début
donc.
Décembre, chez Harlequin, mais c'est une histoire très 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 sympa aussi.
Et on n'a pas de titre, on n'a rien. C'est une surprise.
Non. Ce sera, eh bien, vous n'aurez plus qu'à m'inviter, encore une fois. Ce sera la quatrième Odile.
Merci, oui.
Je reparlerai avec plaisir.
Donc, alors, on en est... Il y a eu celui qui sera donc sur l'Orient Express avec donc, un zeste d'érotisme.
Voilà.
Ça, c'est quand?
Ça, c'est en fin octobre.
Fin octobre.
Et début décembre, le roman historico-érotique.
Historico-érotique.
Voilà, donc là c'était mon actualité Harlequin. Et je pense que maintenant on va pouvoir passer au vif du sujet, ce qui m'a amené aujourd'hui.
Voilà, alors ce qui vous a amené aujourd'hui, eh bien c'est la sortie du livre appelé Meurtre à Château Arnoux. Château Arnoux qui est bien tout près de chez nous, dans le 04. Et pour cela, pour cette sortie qui est prévue le 13 juin, vous êtes invité, bien sûr, par le maire de Château-Arnoux. Bien sûr, enfin, c'était pas une évidence, forcément, mais il se trouve que le maire de Château-Arnoux, Patrick Martellini, est un de vos fans, déjà.
Oui, je pense, parce que ça fait plusieurs livres qu'il lit. Donc on va reprendre par rapport à cet événement parce que c'est quelque chose qui, vous imaginez bien, c'est le 12e roman et c'est pas rien. Mais avant j'ai commencé par parler par la maison d'édition, hein, comme toujours, donc Nelson District.
Voilà, c'est encore une autre maison d'édition.
Tout à fait, donc une maison d'édition que j'ai rencontrée l'année dernière. Et on a eu l'occasion d'échanger via les réseaux sociaux et on a sorti un premier titre en décembre 2014 qui a bien fonctionné aussi. Donc c'est encore quelque chose de complètement différent. Ça s'appelait, ça s'appelle toujours d'ailleurs, pardon, ça s'appelle À quatre doses de la mort et c'est une belle intrigue, une belle aventure qui se situe sur le GR20 pour les connaisseurs, donc chez nos amis corses. Eh oui, parce que moi, je suis fan de la Corse et je suis fan de Bretagne, les terres les plus sauvages qui existent et les gens aussi les plus spéciaux que j'adore, au passage. Donc voilà, c'était un premier essai qu'on a fait ensemble. Et à la suite de quoi, on a décidé de construire ce roman, Meurtre à Château Arnoux, parce que j'y tenais, mais je voulais d'une façon tout à fait particulière. Donc j'ai convaincu mon éditrice et nous le sortons simultanément papier et numérique. Et pour moi, c'est quelque chose c'est super important, bien sûr, mais c'est bouleversant. Pour l'instant, je les ai vus qu'en photo, les exemplaires. les exemplaires papier étaient dans le carton chez mon éditrice, qui n'a pas manqué de me faire bisquer via quelques photos. Et si elle m'entend, merci Dominique, je saurai m'en souvenir. Mais c'était fabuleux, parce que c'est la matérialisation de l'écrit, et c'est quelque chose, c'est énorme. Donc on a fait beaucoup beaucoup de travail d'editing justement dessus, c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure. Et enfin, Meurtre à Château Arnoux va sortir ce 13 juin.
Donc j'ai envie de vous embêter encore, c'est
Allez-y.
Vrai que c'est par rapport à ces maisons d'édition, est-ce qu'il n'y a pas de jalousie, d'infidélité? Comment ça se passe pour qu'une maison d'édition supporte qu'il y ait une autre maison d'édition qui vous publie?
Alors, je pense que c'est le travail de l'auteur justement, et le travail qui va se situer en amont au niveau de l'écriture, il va être tout simplement sur quelque chose de très facile à comprendre. Ce que je publie chez Arlequin, personne d'autre ne peut le publier. Parce qu'ils ont l'habitude, ils ont une ligne éditoriale, ils ont des éditrices qui sont formées pour, qui connaissent très très bien l'érotisme. Et je me sens très très à l'aise avec
donc
elles.
C'est en fonction des genres.
C'est en fonction des genres. Après, il est évident qu'on ne peut pas travailler avec 50 maisons d'édition non plus. Il faut avoir des buts bien, bien précis. Je parle au niveau de l'auteur. Des buts précis, donc, ce qui implique une stratégie qui sera aussi adaptée aux circonstances, adaptée au projet que vous êtes en train d'écrire. Et vous avez des maisons d'édition qui vous diront non, on ne veut pas de thriller, ou non, on ne veut pas d'érotisme, on ne veut pas de ci ou de ça. Et là, c'est le travail de l'auteur de savoir où diriger ses projets, à qui les envoyer, en étant, on va dire, à peu près certain de la publication du projet par la suite. Donc, il n'y a aucune jalousie. Je m'entends très bien avec mes éditrices, avec mes éditeurs, enfin mon éditeur, parce que j'ai qu'un homme dans le tas. Donc, je ne travaille qu'avec des femmes. Mais je m'entends très très bien avec les éditrices et je leur explique quels sont mes projets, avec qui je vais travailler, pourquoi je vais travailler, pourquoi je ne leur présente pas un projet. On prend l'exemple Arlequin, j'essaye de me lancer dans la romance, et croyez bien que c'est un style qui est, à mes yeux, qui est beaucoup plus difficile que l'intrigue d'un polar ou d'un thriller. Mais je sais qu'en faisant ça chez Arlequin, j'ai de fortes chances d'être un jour édité papier. Sous réserve que je sois capable d'écrire une romance, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, il faut savoir où on met les pieds, il faut savoir ce qu'on fait, et non, il n'y a aucune jalousie. C'est juste une question de travailler avec des gens en bonne intelligence et de diriger les projets vers les personnes vers qui il le faut.
Donc, est-ce qu'on peut vous commander une histoire? Parce que vous parlez de 4 à 4 doses de la mort, c'était donc le premier roman chez Nelson, c'est ça Nelson?
Nelson District.
District, qui vous a amené à Meurtre à Château Arnoux. Alors, c'est comme une commande, une suite
C'est simple, mon éditrice m'a dit, tiens, j'aimerais une histoire basée sur... une intrigue donc qu'elle m'a soufflée. Elle m'a dit, vous en faites ce que vous en voulez, mais j'aimerais bien dans ce genre. Donc j'ai repris son idée, et après de là, moi je suis parti dans l'imaginaire et j'ai sorti quelque chose. C'était un premier pas, c'était aussi une façon de se découvrir, de voir comment on travaillait et l'un et l'autre. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ce système d'atomes crochus. Donc on travaille très très simplement, on fait un travail de correction, on fait un travail de révision. Mais voilà, c'est le premier, c'était à 4 doses de la mort. Donc ce titre qui se déroulait, l'action se déroulait en Corse. Et c'est ce qui nous a amené après à sortir Meurtre à Château Arnoux dans les conditions particulières qui se sont produites. Alors, Meurtre à Château Arnoux, il me le fallait absolument papier. Parce que j'avais discuté avec M. Martellini, donc le maire de Château Arnoux. Et qui m'a fait, un monsieur adorable qui m'a fait vraiment des compliments très très sympas sur mes livres et qui avait apprécié. Et il m'avait dit, le prochain que vous sortez, on fera quelque chose. Et du coup, je suis parti sur Château Arnoux. Alors, qu'on soit précis, l'intrigue de départ se déroule sur Château Arnoux et va se prolonger à l'international, entre autres en Italie et aux États-Unis. Donc ça a été, il y avait une progression avec la maison d'édition, et là on est sur le point de sortir le livre, hein, le 13 juin donc. J'ai oublié de dire qu'il sortira en papier texte intégral, mais en numérique il va être en 2 tomes, c'est quand même important de le préciser. Mm-hmm. Pourquoi en 2 tomes? Parce que c'est un bon pavé, il fait près de 500 pages, donc l'éditrice a préféré le diviser en 2 pour le numérique. Donc le tome 1 sortira en même temps que le texte intégral papier le 13 juin. Le tome 2 sortira, lui, le 10 juillet, par contre.
En numérique.
En numérique.
Ce qui donnera peut-être envie d'acheter le livre sur papier pour les impatients, alors.
Pour les impatients, il n'y aura plus qu'une solution, ce sera acheter le livre papier. Alors justement, donc par rapport à ça, c'est ce qui permet d'organiser derrière tout un tas de choses. Donc il y a cette réception officielle en mairie qui va se dérouler le 13 juin. Donc,
samedi.
Samedi 13 juin. Donc là, ça a été fait sur invitation, et merci aux équipes municipales qui ont fait un fabuleux travail. Mmh. Donc de là, on aura même droit à un petit cocktail. Et je trouve ça super sympa. C'est quand même bien qu'un maire s'investisse, je dirais, pour la culture de sa ville. Certes, j'habite à Château-Arnoux, mais rien ne l'obligeait non plus à faire quoi que ce soit. Donc merci aux équipes municipales, merci au maire pour ce geste. Et grâce à l'édition papier, dans la foulée, ça se passera vendredi 19 et samedi 20 juin. Et là, on va aller chez mon ami Jean-Christophe Lédet, qui tient la librairie Presse Tabac à Château-Arnoux. Et sur ces deux jours-là, je serai en dédicace. Donc ce sera de 9h à 19h, non-stop.
Librairie de Château-Arnoux.
Ouais. Donc c'est Allée des Érables, c'est la route principale quand vous allez vers Sisteron, par exemple.
Mmh. Et c'est Jean-Christophe Lédet. D'accord. Les 19 et 20 juin, vous serez en séance de dédicace.
Donc séance de dédicace complète, 9h-19h, deux jours de suite. Et ça tombe bien au passage, parce que je vous rappelle quand même que le 21 juin, c'est la fête des pères. Et pour la fête des pères, quoi de mieux que d'offrir un livre dédicacé. Vous avez vu la publicité en plus.
Oui, non, mais vous êtes très doué pour la communication. J'ai toujours remarqué ça.
Non, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être sympa. Et moi, ce que j'adore, franchement, c'est rencontrer les gens. La première fois où j'ai fait des séances de dédicace, j'étais épaté de voir des lecteurs qui connaissaient le bouquin à la limite mieux que moi et qui me disaient « Ah ouais, mais page 250, quand vous faites dire telle chose à tel personnage, moi j'aurais peut-être fait autrement, mais qu'est-ce que c'était super !» Là, je reste assis parce que je me rends compte que les gens, ben oui, à la limite, ils connaissent la trame, les personnages, peut-être pas mieux que moi parce que je l'ai écrite, mais je suis vraiment surpris, c'est fantastique. Quoi de mieux que de rencontrer ces lecteurs de visu, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, c'est une expérience, ouais, c'est le meilleur du métier, on va dire.
Et puis c'est toujours agréable quand on dit « j'aime beaucoup ce que vous faites, ce que vous écrivez ». Ça
oui,
fait toujours
fait.
Plaisir.
Ah bah ça, de temps
j'imagine qu'il n'y a personne qui est venu vous voir en disant « mais c'est nul ».
Si, bien sûr.
Ça arrive,
ah,
ça arrive.
Si, bien sûr. Alors ça, c'est le problème des critiques et il faut faire avec. Du moment que vous écrivez, du moment que vous commencez à écrire, il y a une règle absolue, c'est qu'un jour ou l'autre, vous tomberez sur quelqu'un qui va vous détester. Mmh. Donc pour de bonnes ou mauvaises raisons, généralement plus mauvaises que réellement construites ou bien établies. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et de toute façon, du moment que vous écrivez, vous mettez un ouvrage dans le domaine public, j'allais dire, donc accessible à n'importe qui. Il faut savoir qu'on aura toujours des aigris, des gens qui pensent différemment. Il y aura de la jalousie aussi. Et puis il y a une règle de base qu'il faut s'inscrire dans la tête dès qu'on est auteur, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est une règle, mais basique.
C'est sûr. Et ça vous est arrivé donc, parce qu'on imagine bien que les gens qui sont mécontents le font plus par écrit ou sur les réseaux sociaux qu'en direct. Ça vous est arrivé aussi que quelqu'un vienne vous voir pour vous dire « j'aime pas du tout »
Non. En direct, en visuel, non. Ça m'est arrivé après en chronique, en critique, même malsaine sur Amazon, sur des plateformes et ainsi de suite. Après, voilà, il faut rester ouvert au dialogue. Et puis, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, je l'ai déjà dit. Mais il faut bien comprendre que des goûts et des couleurs, il ne faut point discuter. Paraît-il. Donc c'est quelque chose de tout à fait respectable. On ne peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Après, il faut accepter d'entendre la critique, parce qu'on... Ben oui, sur tous les titres que j'ai écrits, il m'est arrivé de faire des choses moins bien, peut-être moins abouties ou moins recherchées. Donc c'est... voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut accepter, et puis il faut rester... il faut être honnête avec soi-même, déjà.
On fait une petite pause musicale ?
Avec plaisir.
Allez, on écoute du Rolandien, ce qui est un excellent guitariste. Et voilà, vous venez d'écouter donc Roland Diens qui interprétait Tango en Sky. Il est l'heure de retrouver bien sûr Gilles Milhaud-Vasséry, auteur, écrivain qui est bientôt donc l'invité d'honneur à la mairie de Château-Arnoux le 13 juin, samedi 13 juin. Pour la sortie de son dernier roman, son 12e roman qui s'appelle, c'est un roman, oui,
ah oui, c'est un
Meurtre
roman.
À Château-Arnoux. Alors on va en parler un petit peu déjà, même si on imagine un petit peu comment ça peut se passer, mais avoir le synopsis de ce livre.
Alors je vais être gentil, je vais vous lire juste la quatrième de couverture. Ce qui permettra un petit peu de vous faire une idée sur le sujet. Ensuite, simplement sur mon blog, vous trouverez les liens vers un extrait. Et l'éditrice a été sympa, elle a mis le prologue et premier chapitre de mémoire en libre accès pour se faire une petite idée sur le livre. En attendant, je vous lis juste la quatrième de couverture. Donc, Meurtre à Château-Arnoux. Un automne sanglant s'abat sur la commune provençale de Château-Arnoux. Deux morts sont retrouvés dans la mairie alors que des tableaux ont disparu. Devant des indices troublants, la section de recherche réclame des renforts et Paris missionne Enzo Battista, commandant de l'OCBC et spécialiste des œuvres d'art, pour éclaircir cette sombre affaire. Mais l'enquête s'avère plus compliquée qu'il n'y paraît, avec des ramifications à l'étranger, et l'opération Venise pourpre s'amorce. Entre révélations qui s'enchaînent et spectres ressurgis de la Seconde Guerre mondiale, Enzo et son lieutenant Marania Le Goff vont avoir fort à faire s'ils veulent en sortir indemnes. Voilà, et c'est tout ce que j'en dirais. Non, c'est pas vrai, c'est vous pour en parler.
Alors, comment on écrit sur Château-Arnoux, sa ville, est-ce qu'on va retrouver des noms de rues de Château-Arnoux?
C'est sympa, bien sûr.
Pour le maire de Château-Arnoux, pour les habitants de Château-Arnoux.
Tout à fait. Alors, on va non seulement retrouver des rues, on va retrouver des établissements, on va retrouver la mairie. Comment ne pas parler de la mairie de Château-Arnoux? On a un magnifique château qui fait la couverture, d'ailleurs, du livre. Donc c'était primordial. Et c'est très étrange parce qu'en commençant à en parler un petit peu autour de moi, la première question qui vient tout de suite à mes interlocuteurs, c'est « Mais j'espère que vous avez mis le château en couverture. »
Ah oui.
Immédiatement. Et c'est normal. Mm-hmm. Et on peut en être très fier. Donc voilà, le château est bien en couverture. Je le confirme. La couverture, la première de couverture est visible sur mon blog et vous pouvez voir, elle est dessus. Donc il y a des personnages, il y a la mairie, il y a certaines choses où j'ai par respect vie privée où j'ai modifié des noms, mais je parle de certains établissements bien connus de la ville, et c'est vrai que dedans j'ai rendu hommage à Jean-Christophe dont je parlais tout à l'heure, parce que la première fois, donc ça c'était il y a 2 ans. Bah, je cherchais à dédicacer mon premier livre. J'ai été le voir très très timide, un petit peu emprunté, ne sachant pas trop comment m'y prendre, quoi que ce soit. Et j'ai demandé à Jean-Christophe, ça vous dérangerait pas si je pouvais faire une petite séance de dédicace, une heure ou deux dans votre magasin? Donc je devais être tremblant, blanc et tout ce qu'on peut imaginer. Et Chris m'a gentiment dit, mais tu plaisantes, tu viens là, tu y passes une journée et on va faire quelque chose de bien. Et depuis, on a plus que sympathisé, on est devenus amis. Donc ce livre, en plus d'être dédié à la ville de Château-Arnoux, est dédié à Jean-Christophe. Et voilà, ce que je voulais le dire, c'est important de savoir dire merci aux gens qui vous aident, ceux qui vous apportent quelque chose, spontanément, gratuitement, sans rien attendre de retour, simplement par bonté humaine. Et aujourd'hui, c'est tellement rare qu'il faut, je pense, le souligner à double trait.
Donc c'est Jean-Christophe Lédé de la librairie...
Le Cyclope, voilà.
Le Cyclope, voilà.
À Château-Arnoux. Eh oui. Donc, ce roman, il est basé sur la mairie, il est basé sur un vol de tableaux. L'OCBC, Office central de répression contre la lutte le trafic des biens culturels, c'est ce qui s'occupe de tous les vols des objets d'art en France. Donc, ce sont des flics spécialisés qui ne réfléchissent qu'avec l'histoire, avec des faussaires, avec des indices, avec tout un système. Et bien entendu, comme ça ne me suffisait pas, j'ai rajouté quelques cadavres de ci, de là, pour agrémenter un petit peu l'intrigue du roman. Alors, ce que je vais dire en plus, c'est que le début de l'intrigue se déroule donc sur Château Arnoux, se développe sur la région, se développe sur Digne aussi. De là, on partira en Italie, on partira aux États-Unis. Mais je ne peux pas trop en dire, parce que dedans, j'ai mélangé justement ma fiction avec des faits réels, avec des vols réels qui ont eu lieu. Mais je ne peux pas trop en dire. Donc, ce serait spoiler le livre et révéler un petit peu l'intrigue. Donc, je ne veux pas. Il faudra le lire pour comprendre et savoir.
Il y a beaucoup de vérité dans ce que vous écrivez. Alors, il faut... Ça peut être dangereux pour les voleurs.
Alors pour les voleurs, non, parce que heureusement, je touche du bois, je ne connais pas ces gens-là, on ne fréquente pas le même milieu. Mais c'est vrai que de s'appuyer sur des faits réels, ça permet de donner justement une dimension à un livre. Parce que la rubrique des chiens écrasés, entre guillemets, c'est ce qui alimente les discussions de comptoir. Quand on part après sur de plus grands événements, des drames ou quoi que ce soit, quand il se passe un tremblement de terre quelque part, quand il y a eu un grand vol, un casse ou quelque chose, c'est forcément quelque chose qui marque l'imaginaire collectif. Et derrière ça, quand vous lisez un roman qui peut faire référence à ce genre d'événement, et vous finissez le livre en vous disant mais zut, c'est quoi là? C'est une fiction? C'est un reportage? Et ça, j'adore. J'aime bien semer le doute.
Alors, meurtre à Château Arnoux, c'est vrai que donc il y aura aussi des scènes qui se passent à Digne. On aime bien en tant que habitants des Alpes de Provence, j'imagine pour tout le monde, on aime bien reconnaître les lieux, que ce soit dans un film ou on se dit tiens, ça a été tourné là. Donc c'est important. Est-ce que vous y avez porté une attention particulière à la description des lieux? Oui.
Tout à fait. Les habitants de Digne reconnaîtront très très bien de ce dont je parle dans le livre. Bien entendu, encore plus à Château Arnoux, puisque c'est là-bas que ça se passe. Je crois que c'est important. Je voulais que ce roman sorte ici avec un éditeur provençal, donc bien local, qui sorte papier pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est aussi un remerciement à ma ville d'adoption, en fait, quelque part. C'est aussi... comme quoi l'aventure, elle est au coin de la rue, quelque part aussi, parce que c'est agaçant de pas trop voir parler d'un livre, parce que ça me brûle les lèvres.
Surtout quand on aime bien parler.
mais voilà, donc je me tais, donc je n'en dirai pas plus. Je crois que les Dinois ou les Jarlandins se reconnaîtront très très bien dans le livre, il n'y a pas de problème.
C'est vrai que les habitants de Château Arnoux s'appellent les Jarlandins, c'est joli. Tout à fait. Hein. Donc, meurtre à Château Arnoux, ça va être le grand moment le samedi 13 juin, donc sur invitation, avec les honneurs. Vous allez avoir une cérémonie.
Je pense qu'il va y avoir
C'est émouvant? Est-ce que vous allez...
Je suis terrifié.
Vous êtes terrifié?
Je suis complètement terrifié, parce que forcément, ça n'arrive pas souvent quand même, ce genre de choses, donc je l'apprécie d'autant plus. Mais j'ai hâte d'y être tout en étant en ayant peur, parce que il y aura certainement des gens d'autres milieux que je ne connais pas. J'ai tenu à faire inviter un exemple, à faire inviter le responsable de la brigade de gendarmerie, parce que dans le livre on parle énormément de la gendarmerie. Pourquoi? Parce que bien souvent on parle de flics, police judiciaire, et on zappe trop rapidement la gendarmerie. Alors que ce sont les gens les plus proches de nous. Et au niveau d'enquête judiciaire, ce sont les principaux intéressés. Donc il y a des tas de gens que j'ai envie de rencontrer, et en même temps, il y a toujours ce phénomène un petit peu de l'inquiétude devant l'inconnu. Donc le 13 juin, ce sera le grand saut, et je pense que je dormirai très très belle la veille.
Qu'est-ce que je voulais vous demander? Bon sang, mais c'est bien sûr. Donc, ça sera sur papier. Oui, la couverture, c'est vous qui avez choisi la photo du château. C'est une photo?
Oui, que j'ai prise, d'ailleurs.
Que vous avez prise.
Donc, on en a bien discuté longuement. On a énormément travaillé.
C'est en noir
avec
et blanc.
L'éditrice. Oui. Oui, parce que c'est tout simple. Couleur de police jaune font de couverture. Et la photo en noir et blanc, c'est ni plus ni moins que les codes couleurs du polar. Donc et on m'a fait un super compliment très très sympa sur Google+. Une lectrice qui a qualifié le livre en disant que ça lui rappelait Agatha Christie. Pensez donc, quel honneur.
Je vois donc, c'est votre blog où on parle de Que son règne vienne.
Ah, Que son règne vienne, oui, ça c'est c'est le commandant Gabriel Gerfaut. Donc là, c'est autre chose, c'est un autre de mes personnages. Là, on est en thriller aussi, mais on est chez Harlequin.
D'accord.
Donc Harlequin qui m'a publié les deux premières enquêtes du commandant Gabriel Gerfaut, Que son règne vienne. Une enquête mystérieuse dans le monde des sectes sataniques. Et le deuxième tome qui est paru en mars de cette année, le mystère Lux et Umbra, qui est basé sur la franc-maçonnerie, sur une loge inconnue qui lutte contre un ennemi héréditaire. Et là, pareil, je ne dirai pas plus, il faudra aller sur le blog pour le découvrir.
Vos préférences, est-ce que c'est d'aller dans le polar, est-ce que vous mettez un peu plus au roman romantique, c'est une nouvelle façon d'écrire aussi.
Alors c'est très simple, je suis très très à l'aise dans le polar et dans le thriller, avec bien entendu beaucoup beaucoup de choses à apprendre encore, ça faut pas se leurrer, mais c'est certainement le genre littéraire où je suis le plus à l'aise. L'érotisme, c'est quelque chose que j'affectionne, ce sont mes premières armes, donc je ne les oublie pas et je continue à écrire. Après, je reconnais aisément que voilà, la romance, je le disais tout à l'heure, ça ne doit pas être fait pour moi, je pense. mais j'essaie quand même, je persévère et je travaille avec, justement, là j'ai une grosse pensée pour Sophie, une de mes éditrices Harlequin, qui m'apprend énormément de choses sur la romance. Mais on ne peut pas tout savoir faire, on ne peut pas tout écrire non plus. Après, c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile de vous faire un pavé de 800 pages sur la Seconde Guerre mondiale ou sur un bon thriller avec un tueur en série que d'en faire 250 sur une romance basée que sur de la romance. Mais j'essaye.
Alors, vous faites énormément de choses puisque vous venez donc d'achever ce livre Meurtre
à Château-Arnoux.
Il y a des projets donc de séries avec avec Harlequin, c'est ça?
Oui.
Sex court.
Tout à fait.
Et est-ce qu'il y aura une suite à Meurtre à Château-Arnoux? Est-ce que vous pouvez déjà repartir dans un autre polar?
Pourquoi pas, j'ai, comme je l'ai fait avec Gabriel Gerfaut, donc le héros des enquêtes chez Harlequin. Donc les enquêtes de Gabriel Gerfaut, on a écrit les deux premiers tomes. Pourquoi pas, on peut toujours écrire une suite.
Vous pouvez, c'est facile ou c'est possible ou c'est dans vos habitudes d'écrire plusieurs choses en même temps?
Non,
comme
jamais.
On lit plusieurs livres, non.
Ah non.
Alors
j'écris très vite, j'écris très très vite, mais je n'écris qu'un texte à la fois.
Voilà.
J'en connais plusieurs qui ont 3, 4, 5 textes ouverts en même temps, je ne sais pas faire. Quand je commence par exemple un roman, je vais passer beaucoup de temps en recherche, je vais créer mes personnages, je vais vivre avec mes personnages, donc je suis complètement imprégné, je deviens un zombie littéral. Je peux passer à côté de beaucoup de choses d'ailleurs et oublier beaucoup de choses, mais je vis dans mon roman, je l'écris le jour, je le rêve la nuit, je le réécris la nuit, je change des choses, je suis incapable d'en écrire plusieurs en même temps, c'est vraiment, et j'essaie même pas parce que c'est pas possible.
Oui, c'est pas une obligation. Vous êtes assez productif comme ça pour.
Il y en a plein qui le font. Hein. Il y a plein. Moi, je les envie parce que j'arrive pas à partager mon cerveau. Voilà, je suis sur une histoire, je n'écris que cette histoire et par contre, j'écris vite. Pour écrire une nouvelle, je vais l'écrire en une ou deux journées. Un roman, il va me falloir 15 jours, 3 semaines pour les plus longs.
Ah oui, c'est tout.
Travail d'écriture. Hein. Je parle pas de correction. Ah oui, on travaille d'écriture, ça va très vite.
Qu'est-ce qui vous vient en premier? C'est d'abord l'histoire et...
Oui, c'est ça, c'est l'histoire, c'est l'intrigue.
Et après, est-ce que ça vient petit à petit? Comment vous allez...
Non, j'ai le plan précis dans la tête.
Oui.
En fait, il se construit au moment où j'ai l'idée. Quand je vais passer en phase création de personnages et recherche d'informations, parce que on a toujours besoin de vérifier des informations. Quand je fais ça, en même temps, dans ma tête, je construis mon intrigue. Je vais emboîter mes pistes, je vais sortir mes solutions à tiroir, mais ça, je le construis dans la tête. Je le griffonne noir sur blanc et après, je passe en phase d'écriture.
C'est un vrai travail de construction, voilà.
Tout à fait, c'est un travail. Écrire, c'est un travail. Hein. Ouais. Je rassure ceux qui nous écoutent, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Il y a plein de choses à savoir, mais c'est un travail réel.
Alors chaque jour, on rencontre partout, au quotidien, des personnes, des personnages un peu atypiques. Est-ce que ça vous inspire souvent
J'en ai tellement rencontré dans ma vie que j'ai suffisamment d'exemples dans la tête pour me créer mes personnages. J'évite en fait de rebondir sur des personnes de la vraie vie, sauf quand c'est pour les mettre à l'honneur, comme j'ai fait dans Notre à Château Arnoux. Mmh. Là, on n'est pas dans le même débat. Mmh. Mais sinon, après, quand je crée mes fiches personnages, là, je les invente de A à Z en leur mettant les défauts dont j'ai besoin ou les qualités dont j'ai besoin pour agrémenter mon histoire.
Alors pour un écrivain, bien sûr, votre souhait le plus cher, c'est d'être connu, reconnu et connu pour une plus grande maison d'édition. Est-ce que si jamais vous rencontrez, que ce soit un réalisateur ou un... ou même quelqu'un qui fait des BD, est-ce que ça pourrait vous plaire qu'une de vos histoires soit traduite soit en film, soit en bande dessinée?
Ah, tout à fait. De toute façon, je reste complètement ouvert. Maintenant, comme je ne travaille qu'à compte d'éditeur, ce genre de discussion, ce ne seront que mes éditeurs qui pourront l'avoir. Moi, je n'ai rien à dire. Mmh. C'est plutôt eux qui recherchent ou si quelqu'un doit les contacter pour une adaptation audiovisuelle, ça se passera entre l'éditeur et cette personne-là. Mais bien sûr que j'en serai content, puisqu'en fait, écrire, c'est susciter des rêves dans la tête des gens, des images dans la tête des gens. Quoi de mieux que le cinéma pour le faire. Et pourtant, je reste persuadé que le rêve suggéré par un livre sera mille fois meilleur que celui qui sera suscité par un film. Parce que le film, on a l'image, on est pris dans un scénario, dans des images, alors que le livre laisse une liberté totale à l'imaginaire de la personne. Donc un petit point en plus pour la littérature.
De quoi vous avez besoin pour écrire? Est-ce que vous avez besoin, au niveau de l'ambiance, d'une ambiance silencieuse, d'être enfermé, confiné dans un bureau?
Je m'enferme très facilement dans ma tête tout seul avec beaucoup de bruit autour. Donc c'est quelque chose que je sais faire. Je pense que l'immeuble pourrait s'écrouler d'ailleurs, je ne me rendrais pas spécialement compte. Mais non, ça peut être de la musique, mais très rarement. Parce que si j'écoute de la musique, je vais me laisser emporter et je serais plus du tout concentré. Alors qu'à la limite du bruit, des bruits parasites, on va dire, autour de soi, ça permet de se concentrer, de s'enfermer un peu plus. Bon, après, c'est chacun sa technique. Moi, je reste sur mon clavier, je tape dessus, sans trop faire attention à ce qui se passe autour de moi, en fait.
Vous croyez en la chance ?
Bien sûr. La réussite d'un auteur, c'est 10% de chance. Le jour où j'ai tapé à la porte d'Arlequin, je pense que c'était ma chance d'auteur, tout à fait, hein, mais ça, j'en suis pleinement conscient. Le talent, je fais toujours bondir les gens quand je dis ça, mais le talent, c'est rien. À la limite, on s'en moque presque. Ce qu'il faut, c'est une part de chance, et ce qu'il faut surtout à 99%, c'est du travail, et encore du travail.
Et des rencontres.
Et des rencontres,
la bonne rencontre, les bonnes rencontres, et... Le temps fait des fois bien les choses et...
Tout à fait, et puis la rencontre, ça se provoque. Mmh. Enfin, normalement, ça doit pouvoir se provoquer. Mmh. Après, il y a un facteur chance qui est inéluctable.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
13e, 14e, 15e, 16e roman.
Oui, d'accord.
ils sont déjà dans les tuyaux. Mais non, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Meurtre à Château Arnoux et par rapport à ce qui va se passer à la mairie, Déjà, ce que j'espère, c'est avoir un petit peu plus de notoriété, simplement de... C'est pas de la reconnaissance, c'est pas de la célébrité, on s'en fout de tout ça. C'est, non, c'est vraiment un petit peu de notoriété, parce qu'un auteur a besoin de se faire connaître par tous les moyens. Et là, c'est vrai que cette opération risque, j'espère, va m'apporter beaucoup de choses. Après, c'est le vœu le plus cher, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de réussir à vivre de ma plume. Parce qu'aujourd'hui, je vivote. Donc, c'est les droits d'auteur sont bien entendu peu étendus hein, quand on est en début de chemin.
Donc vous êtes inscrit, comment ça s'appelle, société d'auteurs ?
Alors l'AGESA, non, pas encore. Parce que l'AGESA, il faut avoir des revenus vraiment conséquents en matière de droits d'auteur. Non, pas encore. Donc là, si vous voulez, pour l'instant, c'est le temps, c'est le travail. Et c'est sans arrêt multiplier les rencontres et petit à petit progresser. D'où mon passage.
Parce qu'il existe donc la SACEM pour les droits d'auteur pour les compositeurs, mais la SACD pour les auteurs de pièces de théâtre et pour les écrivains.
Société des gens de lettres, ça si vous voulez c'est un autre débat qui on va plus rentrer dans le juridique, là, c'est pour la protection des textes.
Voilà, vos textes sont protégés.
Du moment que j'ai un contrat d'édition, c'est l'éditeur qui est en charge, qui possède tous les droits sur mes textes.
D'accord.
Donc là, voilà.
Donc pour l'instant, vous ne vivez pas encore de votre plume malgré tout ce que vous avez écrit ?
Non, je vivote. C'est-à-dire que pour l'instant, mes droits d'auteur me permettent de survivre à peine et c'est tout. Mm-hmm. Non, il ne faut pas rêver. On ne gagne pas, je le disais tout à l'heure, n'est pas Lévy ou Musso qui veut. Hein. Mm-hmm. Donc il faut du temps, il faut beaucoup de temps, il faut de la notoriété. Multiplier les opérations, signer les bons textes, trouver les bonnes maisons d'édition. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'entame ce virage, ou plutôt ce retour vers le l'édition papier, puisque l'édition papier aura toujours une aura que n'a pas le numérique encore à ce jour en France. Donc c'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place, c'est une stratégie à mettre en place, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, et on n'a pas le choix. Si on veut avancer, et je dis bien avancer pour simplement vivre de sa plume, il faut énormément de travail, on n'a pas le choix.
Bien.
Ah oui, ça fait... Je sais bien, ça peut doucher l'enthousiasme de beaucoup, parce qu'on... On pense toujours, on écrit un bouquin, on en vend 15 000 exemplaires, on va toucher 150 000 euros, mais c'est pas ça. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Faut pas croire non plus dans ce martelage qui est fait aussi par les médias sur des bouquins qu'on sort, écrits par une gamine de 15 ans et qui fait un tabac monstrueux. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est du marketing, c'est de la promotion bien organisée, certes, mais c'est pas ça le métier. Le métier, c'est apprendre, c'est travailler, se faire éditer, recommencer et pousser les pions petit à petit, lentement, mais sur les bonnes cases.
Et être invité par des salons, à des salons du livre, c'est aussi une belle vitrine.
Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose que je dois à la maison d'édition. Mmh. Donc Harlequin m'y a invité. Mmh. C'est clair que ça vous démarque. Vous faites partie des 4000 auteurs qui sont invités sur le salon. Mmh. Donc tout ça, c'est de la progression. Et après, le but, c'est d'atteindre le dernier carré, ceux qui vivent de leur plume. C'est pas simple, hein. Il faut beaucoup de volonté, mais c'est pas un problème, j'en manque pas.
Gilles Milova-Siri, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Digne pour nous parler de Meurtre à Château Arnoux, entre autres. Donc,
Bien sûr.
Votre 12e roman, et dont vous allez être à l'honneur le 13 juin. Ça va être un cocktail offert par le maire de M. Patrick Martellini, de Château Arnoux. Et puis, j'espère vous revoir très vite. Je serai là, d'ailleurs, en tant que Fréquence Mistral pour ce samedi 13.
Avec plaisir.
Et voilà, et je vous souhaite bien sûr que ça continue.
Et je reviendrai vous voir une quatrième fois.
Exactement.
Merci Odile.
Bonne soirée.
Merci Odile.
Au revoir.
Je claque des doigts. Le décor s'écroule, il m'ennuie parfois, je le mets en boule. Dans mon bagage, comme un vieux linge sale, j'en change souvent, tout ça m'est bien égal. Ha, 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 ha. mettez-vous à l'abri, abracadabra, les envies s'éparpillent. Un jour après l'autre, je dérègle les tours, la tête haute, je marche à rebours.
But I noticed that I didn't really feel